Jean-Marie Rouard, bonjour.
Bonjour.
Ils voyagèrent vers des pays perdus que vous publiez aux éditions Albin Michel. Un roman qui est une probabilité de l'histoire complètement insensée, qui part d'une phrase que le général de Gaulle aurait prononcée ou a peut-être même prononcée à son aide de camp. Si Pétain avait rejoint Alger en 1942, qu'est-ce que je serais devenu ?
Oui, et d'ailleurs la phrase continue. Il dit « Il aurait été accueilli à bras ouverts en Algérie ». Les Anglais se seraient résignés, les Américains auraient applaudi et il aurait remonté à la libération des Champs-Élysées sur son cheval blanc. On comprend mieux toute l'histoire de cette période si on a en tête que Roosevelt était un ami de Pétain, qu'il l'avait connu au moment de l'époque de la guerre de 14-18 et qu'il considérait que c'était l'homme de la réconciliation, ça devait passer par lui. D'ailleurs, il avait un ambassadeur à Vichy, l'amiral Leary, qui chaque semaine allait voir le maréchal en lui disant « Nous allons débarquer, préparez-vous ».
Cette dépêche qui tombe à l'agence Reuters le 11 novembre 1942 a vraiment, vous l'avez écrite et calquée sur celui du discours où il disait qu'il faut cesser le combat, je fais don de ma personne. On est tout à fait dans le discours de, et le phrasé du maréchal.
Oui, c'est un pastiche du style du maréchal, mais vous savez, il a beaucoup hésité. Hein, et son cabinet était partagé. Et alors, on ne sait pas très bien pourquoi il n'est pas parti. Sans doute est-ce parce qu'il n'avait pas, il avait rendu l'avion, mais aussi je crois qu'il était vieux. Voilà. Il faut imaginer que c'était un homme de 86 ans. Il aurait eu 30 ans de moins, à mon avis, il serait évidemment parti. Parce que, et d'ailleurs, Raymond Aron, on a publié un texte de Raymond Aron, disait dans la revue Commentaire, on disait, c'est évidemment la solution. Le maréchal Pétain aurait dû partir le 11 novembre 1942, et à ce moment-là, il serait devenu, d'une certaine façon, un résistant. Et de Gaulle serait parti. Alors là, où est-ce que, qu'est-ce qu'il serait devenu ? C'est toute une hypothèse que j'ai relevée et dont j'ai tiré ce roman qui est à la fois une fantaisie, mais une fantaisie avec un fond de réalité.
Cette fantaisie, comme vous dites, fait l'effet d'un coup de massue à Carlton Gardens.
Oui, parce que vous imaginez bien, pour tous les gens qui ont rejoint de Gaulle et pour de Gaulle lui-même, c'est vraiment le pire coup dur qu'il pouvait éprouver, puisque à ce moment-là, il faut voir qu'à ce moment-là, de Gaulle n'a pas encore l'ampleur, la reconnaissance de la résistance. La résistance, d'ailleurs, est amorcée, mais elle n'est pas encore, elle s'est pas développée. Et donc, il est rejeté par l'histoire. Et comme c'est un homme qui ne perd jamais, confiance, il a une très grande confiance en son destin, eh bien, il imagine quelque chose. Il imagine quelque chose pour essayer de rattraper l'histoire d'une autre façon.
Alors, il y a aussi toute l'atmosphère détestable entre De Gaulle et Churchill à Londres.
Oui, j'ai essayé de montrer que cette atmosphère, il y avait une entente littéraire entre eux, parce que c'était deux hommes de grande culture. Et vous savez, en politique, ça c'est rare. Donc, c'était vraiment heureux de se voir, de parler, d'échanger des citations. Et en même temps, il y avait, bien sûr, la politique anglaise, que d'ailleurs De Gaulle détestait. C'était une politique qui visait à récupérer toutes les colonies, tout l'Empire français. Et en même temps, j'ai voulu montrer cette atmosphère à Londres qui n'est pas du tout celle qu'on imagine. On imagine que les gens qui avaient rejoint Londres, les Français, étaient des gens qui étaient de côté religieux en attendant la libération, le combat contre les Allemands. C'était des gens qui continuaient à vivre. Ils continuaient à vivre, à aimer. Et donc, il y avait un nombre d'aventures amoureuses, notamment dans l'entourage du général de Gaulle. Donc, il y avait déjà cette atmosphère de coucherie très, très, très avec Kessel, avec Dacier de la Vigerie. Il y avait même la drogue, puisque pas mal de l'entourage de Gaulle, il y avait quand même Emmanuel Dacier de la Vigerie qui sortait d'une désintoxication à la cocaïne, et également l'amiral Muselier qui fumait de l'opium. Donc vous voyez, c'était une ambiance pas du tout celle qu'on imagine maintenant, une ambiance vraiment recueillie et uniquement dirigée vers le combat avec l'Allemagne.
Jean-Marie Rouard, je reviens sur ces duels entre De Gaulle et Churchill, et il y a une phrase, je ne sais pas si vous l'avez inventée ou si c'est De Gaulle qui l'a réellement prononcée, « Quand je discute avec le gouvernement britannique, j'ai l'impression de surprendre en flagrant délit de petits vieux sortant du bordel et arrangeant leur cravate pour se donner bonne contenance, ils trouvent des excuses à tout. »
Ah ben, elle est de De Gaulle.
Allez, de Gaulle.
Les lettres de Gaulle, oui. Alors, j'ai mélangé des phrases que j'ai inventées, le pastiche de Gaulle, et puis des phrases qui sont authentiques, qui montrent ce climat de vérité. C'est ça qui est extraordinaire, c'est à quel point. Vous savez, il y a une autre phrase de Gaulle que là, je n'ai pas pu inventer, c'est qu'au moment du débarquement des Américains à Alger, de Gaulle est réveillé par le général Biot en pleine nuit, et il dit au général Biot: Ces salauds d'Américains, j'espère que les gens de Vichy vont les rejeter à la mer. Ce qui est quand même raisonnable. Et puis, 3 heures plus tard, il dictera un communiqué, nous nous réjouissons. Enfin, voilà, il y avait toujours un double langage.
Oui, il avait le don de la formule, hein. J'en ai une autre comme ça que j'ai notée. J'aurais dû transférer le siège de la France libre à Moscou. Là, au moins, on sait que je suis la France.
Oui, alors ça, c'est une phrase de moi, mais c'est exactement ce qu'il voulait faire. C'est qu'à un moment où les Anglais ont voulu essayer de récupérer Madagascar, où ils se sont comportés d'une façon, faut reconnaître, assez ignoble, où ils ont non seulement vraiment torpillé les bateaux français, mais leurs avions ont mitraillé les naufragés qui étaient à la mer. Bon. Et à ce moment-là, il a pris le contact avec Molotov, et il voulait transférer le siège de la France libre à Moscou. Ça, c'est authentique.
Alors il y a les personnages réels et puis il y a les personnages que vous avez inventés et que vous avez qui tournent autour également de cette histoire. Je sais pas si on peut y mettre un grand H ou un petit H. C'est la Léa et puis son chauffeur Stanislas.
Ça, ce sont des personnages qui sont en effet des personnages fictifs, mais disons, j'ai voulu garder le caractère, si vous voulez, qui est très dans l'esprit humain, qui est très important, c'est de ce désir de mythification. On a besoin de mythifier à la fois de Gaulle, et comme on avait eu le désir de mythifier Pétain avant, et en même temps ce désir de réalité, parce qu'on a besoin de savoir quelle est la vérité de l'histoire. Et ces personnages me permettent de montrer, disons, qui sont des correspondances de personnages réels, parce que moi j'ai beaucoup étudié, si vous voulez, j'ai même interrogé, il y a longtemps, en 83, j'avais écrit un livre qui s'appelait Avant-guerre, où j'avais évoqué cette période, et j'avais beaucoup de résistants. Et j'étais frappé de voir que tous les grands résistants que j'avais vus étaient étrangement très modérés sur Vichy. Vous voyez, ils n'étaient pas du tout comme on l'est maintenant, disons, ils n'étaient pas dans l'idéologie, vous voyez, ils étaient. Et j'avais frappé notamment Mitterrand, que j'avais vu très souvent à cette époque-là, qui m'avait dit l'opposition n'est pas entre gaullistes et résistants, elle est entre les gens qui ont connu cette période et les gens qui ne l'ont pas connue. Quand on a connu cette période, on a une opinion complètement différente.
C'est vrai que François Mitterrand, à une période, a fréquenté Vichy avant d'entrer pleinement dans la résistance.
Oui, mais il n'était pas le seul.
Il n'est pas seul, non, non.
Henri Freinet, le patron du réseau Combat, avait été voir Pucheux, ministre de l'Intérieur. Il y avait ce qu'on appelait, et c'est très difficile à accepter maintenant, il y avait des vichistos-résistants. Voilà. Des gens qui étaient attentistes, qui se disaient, attendons que les Américains arrivent. C'est d'ailleurs la position de Malraux. Malraux, quand Claude Bourdet va le voir en 1942, il dit, est-ce que vous avez des armes? Non. Est-ce que vous avez de l'argent? Non. Revenez me voir quand vous aurez de l'argent et des armes. Pas mal de gens attendaient le débarquement américain. Le climat change complètement avec le débarquement américain.
Alors, bien sûr, vous faites aussi un portrait du général qui n'est pas forcément non plus à son avantage.
Écoutez, moi j'ai une profonde
Je sais que vous êtes
admiration pour lui.
profondément gaulliste.
Oui, je suis gaulliste et en même temps très critique. Voilà. Parce que je trouve que c'est un homme admirable. Alors, sur le plan culturel, intellectuel, littéraire. Il est sans comparaison, enfin, il est sensationnel. Mais alors, sur le plan humain, c'est un homme très brutal, sans pitié, sans reconnaissance, sans gratitude, et c'est un peu une brute. Quand il faut faire assassiner quelqu'un comme Darlan, ben, il n'hésite pas. Bon, il n'a peut-être pas tort, mais, enfin, mais plus tard, on l'a bien vu avec les Harkis, il a été impitoyable. C'est un homme qui est vraiment. Qui est une sorte de Richelieu. Voilà, je le trouve aussi peu sympathique que Richelieu. Mais aussi génial.
Vous faites dire à Kessel, en quoi notre général est irremplaçable, il fait croire aux merveilleux, sinon pourquoi tant de braves garçons se feraient-ils tuer pour lui?
C'est vrai. C'est vrai qu'il a été, on pourrait dire, un symbole. Il a permis à la résistance de trouver une sorte d'idéal, voilà, par rapport au maréchal Pétain qui avait cédé devant les Allemands. Lui, c'était l'homme qui continuait à résister, et il a été une espèce d'image idéale, une sorte de Jeanne d'Arc. Et seulement le problème, évidemment, et même parmi les résistants, hein, parce que beaucoup lui reprochaient d'être aussi intransigeant avec le maréchal Pétain, c'est un peu une Jeanne d'Arc qui aurait voulu se faire couronner à la place de Charles VII. Vous voyez, alors sinon, ça posait des problèmes.
D'ailleurs, il y a une phrase qu'il avait dite au colonel Rémy, disant la France a toujours eu besoin d'avoir deux cordes à son arc. Il lui fallait la corde que je représentais et il lui fallait la corde Pétain.
Voilà, eh bien, ça c'est authentique, hein. C'est dit par le colonel Rémy a rapporté cette phrase. C'est la fameuse théorie qu'on conteste maintenant de l'épée et du bouclier. Moi, pourtant, je trouve que cette théorie a quelque chose de. Jusqu'en 1942, elle a une certaine valeur. Elle a une certaine valeur symbolique. Je pense que le maréchal Pétain, jusqu'en 1942, avec une chose à son désavantage, évidemment, qui est tout à fait monstrueuse, c'est le statut des Juifs. Voilà. Et le statut des Juifs, quelque chose qu'on peut vraiment reprocher au maréchal Pétain. Sinon, pour le reste, et c'est la position de Raymond Aron, sur le reste, il est. On peut défendre sa position jusqu'en 42, mis à part le statut des Juifs. Voilà. Et à partir de 42, de 11 novembre 42, alors là, il est difficilement défendable.
Évidemment, dans cette intrigue, il y a un moment où De Gaulle a des envies de suicide. C'est lié à l'intrigue, à votre roman. C'est quelque chose à laquelle De Gaulle a pensé.
Oui. Ah non, ça, il l'a avoué au moment d'expulsion de Dakar. Il a avoué qu'à certains moments, il avait eu la tentation du suicide. Hein. Ça a été. Parce que vous savez, c'est un psychotimique. C'est un homme c'est un artiste. Et comme tous les artistes, il a des moments où il se monte la tête, où il est extrêmement optimiste. Et puis, dès que ça va mal, alors il devient absolument cyniste. Mais le capitaine Guy qu'il a suivi, qui était son officier d'ordonnance, et qu'il a vu à colomber les églises après la libération, eh bien, raconter les moments d'effet où il était très mauvais coucheur, où il était vraiment, il avait des moments de neurasthénie. Hein. C'est un homme qui est à la fois neurasthénique et qui reprend le poil de la bête.
Alors bien sûr, dans cette hypothèse où Pétain a rejoint Alger, De Gaulle doit partir aussi. Et là, il va donc avoir un bateau, le Destiné, qui lui est offert, on va dire, par Churchill. Et là aussi, ça amène des scènes assez cocasses.
Oui, alors j'ai imaginé une espèce de périple mystico-politique et symbolique. Là, ça devient un peu initiatique, vous voyez, ça devient un peu un itinéraire maçonnique. Voilà, parce qu'il part avec ses proches, il y a Kessel, il y a deux gens, il y a Raymond Aron, et ils vont partir vers une destination inconnue qui va les amener vers le Cap Nord, puis ensuite vers Arkhangelsk, et puis ensuite en Russie, jusqu'à Samarcande. Et tout le monde s'interroge pourquoi, où nous emmène-t-il? Et en même temps, tous ces hommes qui l'ont suivi le suivent aveuglément parce qu'ils sentent qu'avec lui, ils iront vers quelque chose d'élevé. Et c'est l'amour du sacrifice. Vous voyez, il y a quelque chose de très profond, c'est que les gens ont envie de se sacrifier, ils ont envie d'aller vers un idéal, quel que soit cet idéal. Et ils sentent bien que De Gaulle, c'est l'homme qui les emmènera vers à se dépasser et à découvrir en eux-mêmes quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.
Et sur le quai, donc, deux silhouettes, celle de Churchill, qui se dit bon débarras, en quelque sorte, et puis celle d'une petite dame modeste, c'est Antigone, qui murmure pour la deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'il m'abandonne.
C'est vrai,
Parce
il
qu'il
l'avait
l'avait
quand même
abandonné quand il est
abandonné.
parti à Londres, déjà.
Quand il est parti à Londres, il s'en va. Mais disons. Mais enfin, il va faire des rencontres, et même à un moment, c'est Staline qui tente de jeter dans ses bras une superbe espionne qu'on appelle la belle Kirghize, le général qui, un soir, il va y avoir une scène un peu étrange. On ne saura jamais ce qui s'est passé parce qu'elle arrive avec un nu sous un manteau de zibeline. Elle rentre dans sa chambre alors qu'il est en train de lire les Mémoires d'Outre-Tombe. Et ce qu'on sait, c'est que le livre lui tombe des mains. Mais il y a une bourrasque, la lumière s'éteint et on ne sait pas très bien si elle est arrivée à ses fins.
Jean-Marie Rouart, parmi les femmes de l'entourage du général, il faut parler de la princesse Sablonski et des rendez-vous mystérieux.
Oui, alors oui, c'est un. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une femme du monde, mais en même temps, c'est une voyante. Et Ce qui est vrai, c'est que là aussi, je me suis inspiré de la réalité, puisque le général, quand il était simple capitaine et qu'il était en Pologne, avait vu des voyantes. Et il avait vu des voyantes. Il y avait même une voyante qui lui avait annoncé qu'il finirait pendu. Et Madame de Gaulle était toujours très inquiète, elle avait toujours peur que son mari finisse pendu. Donc, c'est pas complètement faux, il avait vu les voyantes. Voilà, il avait vu les voyantes, mais c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques. Mitterrand voyait des voyantes. Vous savez, les hommes politiques travaillent dans l'irrationnel. Et donc, ils sont toujours très, très attirés par tous ces gens qui, eux aussi, sont dans le domaine de
Il y
l'irrationnel.
a un personnage, c'est Kessel, qui est là dans toute sa splendeur aussi.
Disons, Kessel fait contrepoids à l'austérité du général de Gaulle, parce que c'est son compagnon, mais c'est en même temps la seule personne pour laquelle le général de Gaulle ait beaucoup d'estime, parce qu'il adore les écrivains, et il le respecte énormément. C'est peut-être celui qu'il respecte le plus. Mais disons, par son caractère chaleureux, sympathique, noceur, viveur, cet homme qui fume l'opium, qui drague toutes les femmes, qui couche avec tout le monde. Toutes les femmes, mais vraiment, c'est vraiment un noceur, vous voyez, qui boit comme un trou, voilà, avec la vodka, défie les verres de vodka. C'est le pendant, si vous voulez, un peu comme une sorte de Falstaff dans Shakespeare, c'est le pendant, disons, joyeux, vivant, et en même temps, une correspondance avec ce que De Gaulle aime, c'est-à-dire la littérature.
Il y a une fin à cette, il y a un rebondissement, on va dire plus exactement, qui arrive à la fin. On va pas le raconter, mais ça arrive un petit peu comme une, j'allais dire, comme une soirée un peu trop arrosée au whisky.
Vous savez, j'ai reçu une très belle lettre d'Édouard Balladur. Et Édouard Balladur m'a dit dans sa lettre, il m'a dit, vous êtes très bien tiré du piège que vous vous étiez tendu à vous-même. Et je trouve ça assez juste. Je trouve ça assez juste. Voilà, mais en effet, on ne peut pas le dire à la fin. Ce qu'on peut dire, c'est que on va vers l'idéal de plus en plus loin, et c'est de plus en plus mystérieux. Et il y a de plus en plus d'aventures à traverser la Russie profonde, et on va vers les montagnes de Montpamir, vous voyez, et tout le monde s'interroge après Samarcande, quelle est la destination du général de Gaulle, qu'est-ce qu'il cherche. En fait, voilà, et on se rend compte que c'est un affrontement avec le temps.
Est-ce qu'on peut mettre en regard ce livre avec un que vous avez écrit il y a quelques années, avant-guerre?
Oui, c'est la version, disons, on pourrait dire picaresque, un peu fantaisiste d'avant-guerre. Exactement, avant-guerre, c'était la version plus sérieuse, peut-être, mais la base était la même. Et en même temps, c'était la même question, si vous voulez, qui me taraudait, c'était se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que nous aurions fait si nous avions eu 20 ans en 1940? C'était l'interrogation qui parcourait mon livre avant-guerre. Et dans ce livre, je continue finalement à m'interroger. Vous savez, cette période de 40-45, elle a remplacé dans l'imaginaire collectif chez les Français, elle a remplacé la Révolution. Avant, jusqu'à 1940, on se disait, la Révolution, c'était notre énigme, si vous voulez. Notre énigme collective. Et maintenant, c'est devenu 40, 45. On se dit, tiens, cette période est mystérieuse, pourquoi est-ce que les Français se sont affrontés, pourquoi est-ce qu'ils se sont déchirés, quelles sont les raisons, ça paraît mystérieux et on a du mal à avaler cette période.
Ça amène aussi à la réflexion des limites qu'on peut porter entre la réalité et la fiction. C'est un peu la Divine Comédie, en fait.
Vous avez tout à fait raison, c'est la Divine Comédie, c'est pour ça que quand on dit Uchronie, c'est pas tout à fait juste, parce que c'est comme dans la Divine Comédie. Dans la Divine Comédie, on voit à la fois intervenir le pape, mais aussi Virgile, on voit intervenir Homère, enfin vous voyez, c'est-à-dire, il y a une sorte de jeu, voilà. Moi je crois que la littérature, c'est le jeu, un jeu avec la réalité. Au fond, c'est un antidote, c'est l'antidote à la réalité. La littérature, c'est l'antidote à la réalité, donc il faut se laisser aller, laisser aller sa fantaisie, et en espérant que le lecteur, à la fois, pourra s'amuser et en même temps toucher des vérités auxquelles il n'avait pas pensé.
Merci Jean-Marie Rouard. Donc je rappelle le titre de ce livre, Ils voyagèrent vers des pays perdus, c'est aux éditions Albin Michel, et comme le nez de Cléopâtre, si Pétain avait rejoint Alger et la Résistance, eh bien la face du monde aurait été changée.
Merci, merci.